Je dis à chaque fois, hein, mais c'est vrai que c'est une responsabilité d'apporter la parole de Dieu, de prêcher. Et ce n'est pas quelque chose que je veux prendre à la légère. Ce n'est pas parce que je l'ai fait une, deux fois ou plus que, entre guillemets, je vais être à l'aise. Je vais être à l'aise dans le sens où je sais que Dieu m'a mis là et j'obéis. Mais en même temps, voilà, c'est sa parole et je ne veux pas que ce soit juste. Je vais le faire parce que voilà. Et voilà, enfin, c'est vrai que voilà, mon père me sollicite souvent pour prêcher et tout. C'est plutôt moi qui dis oui, mais non, mais voilà. Mais bon, je veux vraiment obéir à ce que Dieu me demande. Donc voilà, c'est en toute humilité que je viens devant vous pour vous apporter ce que j'avais à cœur pour vous, pour nous, pour cette église. Alors, comme pour le coup, je savais à l'avance depuis un moment que j'allais prêcher ce dimanche-là. Vous savez, ça commence à trotter dans la tête. Quand vous savez que vous voulez faire quelque chose, c'est là, et puis c'est toujours un peu en toile de fond, on va dire, même si, malheureusement, je suis plutôt de ceux qui font leur devoir à la dernière minute. Mais ceci dit, c'est dans notre tête, et on y pense, et on y réfléchit, et voilà, et c'est juste, on met peut-être sur papier au dernier moment, mais ça trotte dans la tête. Et donc, ce que j'avais à cœur depuis un moment, c'était de partager des passages de l'Ecclésiaste. Alors, l'Ecclésiaste, je sais que ça a toujours un côté particulier pour moi, l'Ecclésiaste, parce que je sais que ma grand-mère aimait beaucoup ce livre. Malheureusement, je n'avais pas assez de maturité à l'époque pour échanger avec elle sur qu'est-ce qu'elle aimait dans ce livre particulièrement, etc. Mais je sais que c'est un livre qu'elle aimait beaucoup. Et comme j'aime beaucoup ma grand-mère, c'est quelque chose de particulier aussi pour moi. Alors, je ne prétends absolument pas avoir compris tout l'Ecclésiaste, vous en faire un exposé fidèle, point par point, vous expliquer le comment du pourquoi. Mais par contre, je vais vous partager quelques passages qui vont parler à notre vie quotidienne et pour notre réflexion personnelle et commune. Donc juste un petit rappel, on va dire historique, ce livre il a été écrit par le roi Salomon, fils de David, et c'était le roi le plus riche de l'histoire, a priori, hein. Et c'est aussi celui qui a reçu une grande sagesse, celle qui vient de Dieu. Alors, normalement, vous connaissez à peu près tous l'histoire, mais il a reçu cette sagesse, il l'a demandé, et il a reçu cette sagesse qui dépasse l'intelligence humaine. Non, juste une petite parenthèse aussi avant de prendre ce premier passage, je vous le donne si vous voulez chercher, c'est Ecclésiaste 1, à partir du verset 2. Mais c'est toujours formidable, je trouve que combien Dieu est bon quand il nous demande de faire quelque chose, parce qu'il y a toujours des petites confirmations sur le chemin. En fait, si vous avez bien écouté ce qu'a dit Rémi, ce qu'a dit Colette, même les chants, vous allez réentendre des choses. On ne s'est pas concerté, hein, mais vous allez réentendre des choses qui ont été dites. Et pour moi, c'est juste une confirmation de me dire « Ok Seigneur, je n'étais pas complètement à côté de la plaque, j'ai bien entendu ce que tu as dit et merci. » Moi, ça me donne juste un coup de pouce en me disant « Ok, c'est bon. » Et du coup, merci Seigneur pour ça, merci à vous d'avoir été aussi à l'écoute, parce que ça, voilà, ça rassure. Donc, vous allez réentendre des choses. Donc, c'est que Dieu veut nous parler. Alors, Ecclésiaste 1, à partir du verset 2. Vanité des vanités, dit le maître. Oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte vers l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Le vent souffle vers le sud, puis se tourne vers le nord. Il tourne et tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit « Tenez, voilà quelque chose de nouveau !» En fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après nous n'en auront aucun souvenir. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas tout expliquer, mais quand j'ai pris ce passage, c'est surtout ce verset 9 sur lequel je voulais un petit peu partager. C'est ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, je trouve que les formes peuvent être différentes, bien sûr. Je pense qu'on vit des choses, entre guillemets, nouvelles par rapport à il y a des centaines d'années. Mais en même temps, le fond reste le même. On parle du cœur de l'homme. Il se présente sous différentes formes. Je veux dire, si on parle de la façon dont on s'habille au travers des siècles, etc. Mais le cœur de l'homme est toujours le même. Je prends l'exemple du message aussi, par exemple. À chaque fois qu'on prêche, on ne va pas inventer quelque chose de nouveau. on va prêcher peut-être quelque chose sous un angle nouveau, un autre angle, mais on ne va rien inventer de nouveau. D'ailleurs, heureusement, parce que la Bible nous met en garde sur ça. Il nous dit de ne pas prêcher un autre évangile que celui que Jésus a annoncé. De ne pas égarer les gens par de vains discours ou de fausses prophéties. Donc il y a quand même quelque chose d'important là-dedans aussi. Le message de l'évangile reste le même. Et ce que j'ai dit, ça a déjà été dit. Tout ce que je vais dire ce matin, si je ne me trompe pas, en tout cas, le Seigneur me garde, mais c'est quelque chose qui a déjà été annoncé. Je ne vais rien dire de nouveau. Mais par contre, ça va être dit dans une saison particulière. Ça va être dit d'une autre façon. Ça va être dit quand les gens auront une autre disposition de cœur par rapport à quand ça leur a déjà été dit. Et c'est là que Dieu peut agir. Ce que je pense, quelqu'un l'a pensé avant moi. Ce pourquoi je prie, quelqu'un a prié avant moi. Quand on prie pour le réveil, on est tout content, on est plein de feu, mais il y a des centaines de générations avant nous qui ont prié pour ça. Et attention, je ne dis pas que nous ne devons pas répéter ou ne pas faire ce qui a déjà été fait. C'est plus l'idée de ne pas s'enorgueillir quand quelque chose, on découvre quelque chose qu'on estime de nouveau. Pour moi, c'est peut-être quelque chose de nouveau. C'est une révélation qui vient de Dieu, et c'est très bien. Mais attention de remettre les choses à leur place, ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui inspire toute chose. Tout vient de lui, toute chose qui est bon. Tout ce qui est bon, pur, parfait. On ne doit pas s'approprier les choses pour se faire valoir, mais pour s'y investir. Dans cette phrase, je veux dire que si j'ai l'impression de quelque chose de nouveau, que je reçois quelque chose de nouveau, c'est pas « Ah, j'ai quelque chose de nouveau à vous dire, je vais vous le présenter, c'est nouveau, c'est tout beau, ça lave plus blanc que le blanc. » C'est pas ça l'idée, c'est « Je vous le présente parce que je veux m'y investir, j'ai compris ça, j'ai eu cette révélation, alors j'y vais et je me mets à fond, j'ai enfin compris, c'est quelque chose que j'avais pas compris, aujourd'hui je comprends, donc j'y vais, je m'investis, c'est « Waouh, merci Seigneur !» Mais c'est remettre les choses à leur place. Dans Colossiens 1,16, c'est dit de Jésus, tout a été écrit par lui et pour lui. Le fait aussi de, voilà, tout, rien n'est nouveau sous le soleil, c'est aussi le côté où on est dans un relais. On ne commence pas de nulle part, on ne commence pas d'un désert. Il y a des choses qui ont été vécues. On parle souvent de l'héritage qu'on peut avoir, que ce soit l'héritage dans notre famille, quand on a eu la chance d'avoir des ancêtres chrétiens, que ce soit en tant qu'église. On a un héritage, l'Église avec un grand E, j'entends, hein, de ce que Dieu a fait depuis le début des temps. Donc c'est un relais, on prend la suite de ce qui a été fait, on continue ensemble. D'ailleurs, si vous voyez, enfin, j'ai un peu cette image, vous voyez les courses de relais, quand le relais se passe, il y a toujours un moment où les deux courent en même temps. C'est pas, paf, je m'arrête, je te donne, tu continues. Il y a un moment où on court ensemble, on tient tous les deux le relais, on marche ensemble. Et il y a ce côté-là où... Voilà, on n'oublie pas ce qui s'est passé. On a ce devoir presque d'histoire, je devrais dire ça comme ça, où il faut effectivement qu'on sache ce qui s'est passé dans le passé. Le lointain passé, le plus proche passé, pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir avancer. Mais c'est aussi un relais, on travaille ensemble. On continue l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, elle n'est pas arrivée quand on est arrivé. Elle a commencé avant la création même. L'œuvre de Dieu, elle est de toute éternité. Et qui sommes-nous pour prétendre que ça y est, je sais tout et j'ai toute la bonne formule pour faire changer les choses. On rentre dans le timing de Dieu, pas le nôtre. Et quand je dis tout ça, c'est l'idée de remettre les choses en perspective. On rentre dans le plan que Dieu a créé et on ne se sente pas juste sur un individu. Souvent c'est moi. Mais on se sente sur un groupe d'individus. Chaque individu est important. Et ce qui fait a des conséquences sur l'autre, qu'il le veuille ou non, des bonnes ou des mauvaises conséquences. C'est vraiment cette idée, voilà, de mettre en perspective, certes, on a une identité propre, on est important en tant qu'individu, mais on est dans un groupe. Et tout ça prend beaucoup plus de sens aussi, du coup, quand on fait les choses, quand on partage, on révèle ce que Dieu nous, enfin, ce qu'on partage, ce que Dieu nous a révélé. Alors, bien sûr, il y en a qui pourront dire « Oui, mais quand même, il y a des choses nouvelles. » Il y a quand même des choses nouvelles. Je veux dire, je ne sais pas, le téléphone portable, ils n'en avaient pas avant. La technologie, tout ce qu'on peut faire, la médecine qui a évolué. Alors, bon, peut-être que je me trompe un peu, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce sont des moyens qui ont évolué. Le fond, c'est toujours le même. À quoi servent ces choses? Quelle est l'utilité normalement d'un téléphone portable? Aujourd'hui, vous me direz, ça ne sert plus beaucoup à appeler. Hein, on fait beaucoup de choses avec. Mais à la base, c'est pour communiquer avec les autres. communiquer, on le fait depuis, ou on essaye en tout cas, de le faire depuis des lustres. La médecine, on a toujours essayé de soigner les gens. C'est que la technologie a évolué. On fait ça mieux parce qu'on a développé la science, etc. Mais au fond, si on parle, voilà, je reviens au cœur de l'homme, c'est la même chose. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on regarde bien ce que la science découvre, on finit toujours par voir qu'elle prouve que ce que la Bible dit est vrai. Donc nous, en tant que chrétiens, ne cherchons pas à faire l'inverse. Partons sur le postulat de la foi, que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est puissante et vraie. Et que du coup, ce qu'elle dit, elle est vraie pour ma vie, elle est vraie pour notre communauté, elle est vraie pour notre vie ensemble. Et on ne va pas attendre de vivre une expérience qui va confirmer ce que la Bible dit. C'est toujours très encourageant, comme je viens de dire tout à l'heure. Moi, ça m'a encouragé d'entendre des frères et sœurs dire des choses que j'avais prévu de dire dans le message. Mais je sais que la foi, elle est, la foi dans la Bible, la parole de Dieu, est vraie. Et donc les expériences sont bonnes, mais ce n'est pas sur ça qu'on base notre foi. Donc voilà, ça c'était... Donc, en fait, j'ai plusieurs passages que je vais partager. C'est des... Je veux plus ça, des pensées sur le sujet, on va dire. Et donc, voilà, c'était ce que je voulais partager sur le verset 9. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vraiment l'idée, en tout cas, voilà, de remettre les choses en perspective. On ne doit pas courir après le dernier nouveau truc. On doit courir après Dieu. On ne doit pas chercher à avoir le meilleur, je ne sais pas, la meilleure vie de prière, la meilleure, etc. C'est chercher Dieu toujours, c'est remettre en perspective. Et ce n'est pas centré sur moi, c'est centré sur Dieu toujours. Le deuxième passage qu'on va apprendre, c'est Ecclésias 4, verset 17. Ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec l'intention d'écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des sots qui ne comprennent pas qu'ils agissent mal. Ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles. En plus, en effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. De même que plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard, car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi tiens ce que tu promets. Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre sans tenir parole. Évite les propos qui te rendraient coupable. Ne sois pas obligé de dire au prêtre « c'est une erreur », autrement Dieu s'irritera à cause de ses paroles et détruira ce que tu entreprends. Les paroles trop abondantes sont aussi vaines que le rêve en grand nombre. C'est pourquoi préoccupe-toi plutôt de respecter Dieu. Je vais me rasseoir, vous allez réfléchir à ça tous ensemble. J'aime beaucoup parce que ce sont des choses qui sont, comme je disais au début, hein, c'est notre vie quotidienne. Qui n'a jamais eu des mauvais rêves ou une mauvaise nuit parce qu'il avait trop de soucis? Qui n'a jamais fait une promesse qu'il n'a pas réussi à tenir et il y a eu parfois des conséquences? Ou parfois même les plus grosses des conséquences, c'est qu'on s'en veut. Que ce soit d'ailleurs avec une promesse à Dieu ou une promesse aux autres. C'est la vie. Je vais revenir sur quelques versets. Alors, le premier, j'y repensais juste ce matin, dans le verset 17. Ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec l'intention d'écouter. Quand on a fait un week-end là, avec des amis, on s'est posé la question sur le mot culte, justement. C'est vrai que ça se fait bizarre. On a plus tendance à dire « je vais à l'église ». Nous, les protestants, c'est vrai qu'on utilise plus le mot culte. Mais le problème, c'est que ça fait penser au mot occulte. Alors, ça fait un peu. Voilà. Et en fait, on se dit, bah, tiens, en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi on dit le culte au final? Et je crois que si je ne me trompe pas, la racine, c'était cultiver. Et donc, c'est cultiver une relation avec une divinité. Et je trouvais ça, effectivement, du coup, plus parlant. Souvent, l'usage des mots, on les perd un peu. Mais voilà, l'idée de cultiver cette relation. On la cultive. Chaque semaine, tout seul, en famille, on la cultive ensemble le dimanche. Et je ne sais pas pour vous, alors moi, je n'ai qu'une petite expérience, toute petite, hein, personnelle, au niveau de la culture, de faire pousser des plantes, des tomates et machin. Bon, je vois plus mes parents qui, eux, ont un jardin de fou. Et le truc, c'est que cultiver, ça demande de la persévérance et de la régularité. quand on oublie d'arroser, voilà, quand on ne prend pas bien soin de désherber. Quand on... voilà, et ce n'est pas juste, tiens, j'ai un jardin, génial, ça demande du travail. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour parler, mais j'ai vu beaucoup, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui jardinent, qui cultivent, qui ont des légumes, des fruits, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez que ça demande quelque chose de constant. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça parfois. Il y a des jours, je me dis, oh purée, j'ai oublié d'arroser. Bon, heureusement, il pleut. Merci Seigneur. Ça permet de faire pousser les tomates quand même. Mais c'est juste la symbolique. Du coup, oui, ça demande du travail. Oui, ça demande de la régularité. Oui, ce n'est pas juste, je vais 3 dimanches par an et hop, c'est bon. Non, si vous faites ça avec votre jardin... Et donc du coup, cette façon de cultiver, d'aller au culte, c'est voilà, qu'on cultive ensemble. Donc c'était juste une petite parenthèse, je pensais à ça. Donc le passage entier qu'on a lu, il nous rappelle qui nous sommes et qui est Dieu. Encore une fois, il y a quelque chose de mettre les choses en perspective. Et j'ai eu un autre échange cette semaine sur le sujet. Et il est vrai qu'on parle beaucoup de l'amour de Dieu pour nous, sa bonté, sa patience. Toutes les choses qu'on aime et dont on a besoin quand on n'est pas forcément bien. Mais, bien que tout cela soit vrai, Dieu est amour, Dieu est bonté, on oublie parfois de parler que Dieu est amour et justice. Vous voyez le parallèle, hein ? Et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas parler d'amour sans parler de justice. On ne peut pas parler de justice, la vraie justice, sans le vrai amour. Et je pense que c'est aussi clair pour les enfants. Enfin, moi, je le vois avec les neveux et nièces. Hein. S'ils trouvent que quelque chose n'est pas juste, ils ne se sentent pas aimés. Si on a fait quelque chose qu'ils estiment injuste, tu m'aimes pas de toute manière. D'où ça sort ? Mais qu'est-ce qui est quoi ? Parce que j'ai donné 2 bonbons à lui et j'ai oublié de t'en donner. Enfin, voyez, il y a quelque chose directement pour eux, c'est clair. T'es pas juste, tu m'aimes pas. Le sentiment d'injustice produit en nous un mal-être, une colère. Mais ça, vous le savez tous, on a tous vécu des injustices. Grande ou petite, on l'a tous eu à un moment donné. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de justice... Ah. Mais voilà, Dieu, dans sa perfection, il est amour, il est justice. Donc il est amour parfait, justice parfaite. Ce n'est pas la justice des hommes, ce n'est pas l'amour des hommes. Cet amour-là, cette justice-là, impeccable. Et moi, j'ai souvent entendu cette image qui parle aussi de la pièce. Une pièce, c'est une seule pièce, hein, mais vous avez 2 côtés. Et ils vont ensemble. Donc vous avez d'un côté l'amour, d'un côté la justice, mais c'est une seule pièce. Donc bien que Dieu nous aime et qu'il ait envoyé Jésus pour nous sauver, nous avons nous aussi à nous rappeler qu'il est Dieu. Il est majestueux, il est tout-puissant, il est créateur, il est glorieux, il est saint, il est digne d'adoration, il est digne d'honneur, il est de toute éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Et en même temps, il vient tout proche de nous, habiter dans nos cœurs. Et c'est vraiment ça, en lisant ce passage dans Ecclésiaste, c'est vrai, nous rappeler, ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu, ne parle pas précipitamment, ne fais pas des promesses que tu ne vas pas tenir. Et n'oublie pas qui est Dieu. Et ce matin, c'était vraiment un moment fort, j'ai trouvé dans la louange, en tout cas, j'ai vraiment... Voilà, je sentis la présence de Dieu et à un moment donné, juste dans un échange, j'avais l'impression voilà, juste de voir une infime partie de la beauté de Dieu. Et juste, j'avais les larmes aux yeux en me disant waouh, mais Seigneur, c'est vrai, t'es tellement grand, tellement infinie. Et quand Dieu nous fait grâce de voir, de percevoir ça, j'ai envie de dire, le reste, il se remet à sa place et ça fait juste du bien de se rappeler mais oui, Dieu est Dieu. Et on le prononce trop vite. Je crois que mon père, la dernière fois, parlait de la symbolique, les mots. Et c'est vrai qu'on utilise le mot Dieu, c'est un symbole. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? Et qu'est-ce qu'on, parfois, on oublie peut-être trop souvent ce côté Dieu, créateur, Dieu, majestueux. Et on a besoin de se le rappeler. Alors, je pense que peut-être dans l'histoire de l'Église, il y a aussi un équilibre qui a voulu se faire, où il y a eu des années, hein, il y a très 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 longtemps, où l'Église peut-être utilisait la peur pour faire venir les gens à Dieu. Si tu ne crois pas, tu vas aller en enfer, ceci, cela. Et du coup, où était le Dieu amour là-dedans? Et peut-être que dans l'histoire de l'Église, il y a eu un balancement en disant « oui, mais il faut aussi parler de ça ». Enfin, les deux sont vrais, oui et non. Enfin, ce qu'il faut en tout cas, c'est prêcher l'évangile de Jésus-Christ et cet équilibre entre Dieu amour et Dieu justice. Et ne pas oublier qui est Dieu et que nous sommes des hommes. Et bien sûr, on a notre importance, mais il est Dieu. Et voilà, donc ça me faisait penser, penser à ça, ces propos. Juste encore une parenthèse, j'ai pas mal de petites parenthèses dans ce message, mais au verset 2. Non, attendez, 3, pardon. Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir, c'est pourquoi tiens ce que tu promets. Juste petite parenthèse pour dire que Dieu aime qu'on réfléchisse, Dieu aime qu'on se serve de notre intelligence. Ça c'est un verset, il y en a plein. Normalement quand on veut valider entre guillemets quelque chose, c'est qu'elle se trouve plusieurs fois dans la Bible, et vous le trouvez à d'autres endroits, mais c'est pour juste encourager que Dieu veut qu'on cultive notre intelligence, voilà ce que l'on qu'on peut utiliser. Il nous a donné ce cerveau, utilisons-le aussi. Voilà, donc c'était vraiment ça, sur ce passage-là, le côté où Dieu est sur le trône et il règne. Alors le troisième passage que je vais prendre, celui-là finalement je ne vais pas vraiment le commenter comme j'ai pu le faire pour les autres, parce que je trouve qu'il parle de lui-même, surtout avec les versets suivants que je vais mettre en parallèle. Donc là, c'est Ecclésiaste 8, verset 16. Je me suis appliquée à comprendre comment on pouvait être sage, et j'ai observé attentivement les occupations des humains sur la terre. J'ai constaté que, même en restant éveillé nuit et jour, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu a agi à travers tout ce qui est arrivé ici-bas. Les humains peuvent bien se fatiguer à chercher, ils ne le découvrent pas. Même si le sage affirme qu'il le sait, il n'est pas capable de le comprendre. Alors j'ai pris en considération tout ce que j'ai vu. Et j'en ai conclu que Dieu seul a pouvoir sur la vie des justes et des sages comme sur leur activité. Les hommes ne savent même pas s'ils connaîtront l'amour ou la haine. Ils ne peuvent rien prévoir. Et c'est pareil pour tout le monde. Dans une autre version, je crois que c'est pareil pour les justes et les méchants. Et en fait, quand j'ai lu ce passage-là, et notamment j'en ai conclu que Dieu seul a pouvoir sur la vie des justes et des sages comme sur leur action, ça m'a tout de suite fait penser au sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, qu'on va lire ensemble. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Vous voyez, je vous avais prévenu qu'il y aurait des redites. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? D'ailleurs, l'inquiétude, en général, ça nous fait stresser. Ça nous fait plutôt perdre de la vie. Parenthèse. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement ? Considérez comme croissent les lys des champs et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Le roi le plus riche du monde, hein. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le même passage dans Luc 12, il ajoute, juste à la fin, c'est quasiment la même chose, mais il rajoute ce verset, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et du coup, voilà, c'est... Enfin, je pense que ça n'a pas besoin de plus d'explications. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Dieu seul a le pouvoir sur la vie des justes et des sages, comme sur leurs actions. Les hommes ne peuvent rien prévoir. Donc, confions-nous à Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Et là, il dit, hein, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors, s'il nous le donne, à nous d'y travailler. Et quand on travaille pour Dieu, Dieu est juste, Dieu est bon. Et Dieu nous rend toujours au-delà, d'une autre façon. Mais il nous rend toujours quelque chose. Et c'est pas pour ça qu'on le fait, mais c'est qu'on trouve, au fur et à mesure qu'on vit avec Dieu, que c'est une vérité. On parlait de la dîme tout à l'heure. quand on est fidèle à Dieu dans la dîme, il nous bénit financièrement. Et encore une fois, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais c'est juste une constatation. Quand on donne de notre temps, Dieu nous bénit autrement. Moi, je sais que dans mes études, quand j'avais un examen, etc., bon, il faut travailler, il faut mettre de côté, mais j'ai toujours essayé de mettre Dieu en priorité, et d'être là, et de donner de mon temps. Quand, c'est vrai que ça fait bizarre de dire que ça fait presque 20 ans que je fais le groupe de jeunes, que je participe en tout cas en tant que responsable ou être responsable. Si vous calculez, ça fait pas mal de temps, mais Dieu m'a toujours béni d'une manière ou d'une autre. Il a renouvelé mes forces. Et voilà, là, je vous partage l'expérience, mais vous avez aussi plein d'expériences comme ça, où vous voyez combien Dieu, quand on cherche son royaume, il pourvoit. Il pourvoit et on n'a pas à s'inquiéter. Alors bon, malheureusement, on s'inquiète de temps en temps quand même, mais c'est là qu'on essaie de remettre ça à Dieu. En tout cas, voilà, Dieu nous a donné le royaume à nous, qui ne pouvons rien prévoir pourtant. Mais c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on grandisse. Alors, c'est marrant, j'ai marqué, je termine avec ce passage et j'ai encore 2 pages. Je m'inquiète. En tout cas, dans Ecclésiaste, je voulais terminer avec le dernier passage d'Ecclésiaste, du coup. C'est Ecclésiaste 12. Donc versets 13 et 14. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. Dans une autre version, il y a « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme ». Verset 14. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Donc là, il y a un rappel de la justice de Dieu. Donc, ça, c'est la conclusion du discours de l'Ecclésiaste, qui a du coup 12 chapitres. Et ça, c'est la conclusion qu'il en fait. Et ça nous concerne tous. Là, il n'y a pas d'exclusion, ça concerne tous. Hommes, femmes, enfants, chrétiens, pas chrétiens. Ça concerne tout le monde. Et du coup, bah, forcément, ça m'a amené sur... la crainte de l'Éternel. Puisque un soir rempli de respect pour Dieu, c'est craindre Dieu. Et j'ai cherché d'autres versets qui parlent de la crainte de l'Éternel, parce que je sais que c'est une notion importante dans la vie du chrétien. Alors je fais juste encore une parenthèse, j'aime bien les parenthèses. Il ne faut pas confondre la crainte de l'Éternel avec l'esprit de peur. Il ne s'agit absolument pas d'avoir peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est avoir du respect pour lui, une profonde révérence envers lui, mais c'est aussi lié à la connaissance de Dieu. Et c'est là aussi que le Saint-Esprit nous vient en aide. Parce qu'on ne peut pas saisir cette crainte par l'intelligence seule. C'est dans nos cœurs que ça va résonner, alors qu'on lit sa parole, que nous recherchons Dieu dans les Écritures. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Et voilà, et cette crainte de l'Éternel, on l'a. On l'acquiert alors qu'on se rend compte de qui est Dieu. Si je reviens en arrière sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on réalise que bien sûr Dieu est dans nos cœurs et il nous aide et il est présent dans notre quotidien, mais quand on réalise aussi qu'il est Dieu au ciel, au-delà de tout cet univers, qu'il a tout créé, qu'il est là avant la création du monde, ça remet les choses à sa place. Ah ouais, peut-être que quand même, il y a une certaine révérence à avoir. C'est pas juste, effectivement, cet ami proche, il est cet ami, mais il est Dieu. Donc pour ceux qui veulent creuser le sujet, si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous conseille le très bon livre de John Bevere sur la crainte de l'Éternel, ça s'appelle La crainte de l'Éternel. Il est vraiment tip-top si vous voulez en savoir plus sur le sujet. J'avais une autre image aussi pour essayer d'illustrer ce côté, la différence entre la peur et la crainte de l'Éternel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais bon, à tout le monde, je pense, à un moment donné, vous ayez rencontré quelqu'un d'important pour vous. Alors pas forcément quelqu'un de célèbre pour tout le monde, mais pour vous, c'était quelqu'un d'important. Ça peut être, je sais pas, un musicien, un sportif, ou quelqu'un que, de votre famille que vous admirez beaucoup. Enfin, je sais pas, quelqu'un vraiment que enfin, vous connaissez juste de renom ou autre, et que vous trouvez important. Eh ben, quand on rencontre cette personne pour de vrai, du coup, ça nous met un peu dans tous nos états. Et c'est pas de la peur, on n'a pas peur de la personne. Mais il y a cette admiration qui est là, qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'elle va penser de nous? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que. Voilà. C'est juste. Voilà. C'est, et vous comprenez, c'est pas de la peur de la personne. Mais c'est. Oh, je vais le rencontrer, quoi. Et donc, du coup, j'ai pensé à un exemple personnel. Moi, justement, je parlais de John Bevere, qui a écrit le livre La crainte de l'éternel. Et j'aime beaucoup le couple John et Lisa Bevere, qui elle aussi écrit des livres. Et quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu la joie d'être à une conférence où elle était là et on pouvait aller la voir à la fin. Et moi, j'étais juste trop contente, quoi. J'allais rencontrer Lisa Bevere. J'avais lu une bonne partie de ses livres. C'est quelqu'un que j'admire énormément en tant que femme, épouse, mère, oratrice. Enfin, voilà, c'est quelqu'un que je trouve, waouh, c'est un exemple, quoi. Et bah, du coup, voilà, j'étais là, j'attendais et j'ai attendu un moment avant de lui parler parce qu'il y avait pas mal de monde. Et j'avais pas peur d'elle, mais voilà, c'est quelqu'un que j'admirais. Du coup, je trouvais pas trop mes mots, ce que je voulais dire. Enfin, voilà, et c'est un peu. Alors, c'est qu'une image, hein, chaque image est imparfaite, mais ça vous donne un peu l'idée, c'est cette différence entre la crainte de l'éternel et la peur. Quand on voit quelqu'un qu'on met un peu, bon, peut-être sur un piédestal, on a cette admiration et ce côté où on n'a pas envie de faire n'importe quoi. On n'a pas envie de se rendre ridicule, on n'a pas envie de prendre les choses à la légère, quoi. On va valoriser ce temps qu'on a avec la personne parce qu'il va être court et c'est quelqu'un, on sait, d'important. Et voilà, c'est juste une petite image peut-être pour vous aider si jamais il y en a qui ont encore une difficulté avec la notion de peur ou de crainte. Alors, pareil, il y a beaucoup de choses en fait où, quand je les ai. Ecclésiaste, où ça me faisait penser à d'autres passages dans la Bible. Et donc là, je voudrais mettre en parallèle le Proverbe 1, verset 7. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » La version française courante dit « Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements des sages. » Donc, je trouve que la crainte de l'Éternel, elle est capitale si on veut avancer. Si on veut changer, si on veut se laisser transformer. Parce qu'elle nous remet, nous, à notre juste place, et elle remet Dieu sur son trône. La crainte de Dieu, en plus, encore une fois, elle s'accompagne de nombreuses bénédictions. Alors, si vous faites une recherche, vous allez en trouver beaucoup. Moi, j'ai fait la petite recherche hier, j'ai tout un paquet de versets, donc je ne les ai pas tous pris, mais j'en partage quelques-uns, du moins ce que ça peut créer en nous, ou ce que ça peut apporter comme bénédiction. Alors, je les cite, j'ai les références, si jamais vous les voulez, je pourrais vous les envoyer, mais là, je vais juste les citer à la suite. « Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut, la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel, qu'elle s'apprend, puisqu'on peut l'enseigner. » Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Alors après, il y a tout le contexte qui va avec celui-ci, mais on choisit de craindre l'Éternel. C'est pas juste, ah tiens, il y a un choix. Tout à l'heure, je disais, on peut l'être enseigné, mais il y a aussi le choix. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est bon ça, ça peut être une bonne chose. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Donc voilà, il y en a plein d'autres. Mais je vous en ai donné quelques-unes qui montrent que la crainte de l'Éternel, elle est importante dans nos vies de chrétiens. Elle nous aide vraiment à remettre les choses en perspective. Et encore une fois, il y a toujours cet équilibre. Hein. C'est pas juste je suis rien du tout et je ne vaux rien et je suis un gros naze. Et Dieu est Dieu. Non. Dieu est Dieu. Dieu est son don. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Mais moi, je suis un humain qui a de la valeur. Mais je suis un humain. Et tout n'est pas centré sur moi. Alors, j'avais une autre image aussi pour faire réfléchir. Bon, j'espère qu'elle vous parlera. Moi, elle m'a parlé quand je l'ai eu en tête. c'est enfin, la vie avec Dieu. Je ne sais pas si tout le monde ici a été élevé dans la culture des jeux de société. Nous, on a eu beaucoup ça dans notre famille, on a beaucoup fait, on a gardé ça finalement, on le fait aussi voilà, de notre côté, avec des amis et autres. Je pense que quand même beaucoup de gens ici ont eu cette expérience. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous rencontrez quelqu'un d'autre qui aime les jeux de société et qui vous parle d'un jeu de société. Il est génial ce jeu, on va passer un temps fun, vous allez voir, c'est trop drôle, ou alors il est vraiment passionnant, etc. Et vous voyez la personne en face de vous qui est hyper motivée, et vous dites, ah ouais, ça a l'air bien ton truc. Bon, bah vas-y, allez, on va tester, on explique. Et là, ça commence, il nous explique les règles. Et on ne comprend pas, en fait. Parce que, bon, lui, il a déjà joué, il connaît, etc. Et il vous explique, et on vous distribue des cartes, ou on met le plateau devant vous, on vous explique les règles, les machins, et... Ouais, ok... vous avez envie d'abandonner, parce que je ne comprends rien, ou c'est très vague. Et voilà. Et puis, en général, ça se termine pas, non, mais on va commencer à jouer, vous allez voir. En général, c'est comme ça, hein, je jure que... Bon, il y en a peut-être qui comprennent très très bien ce genre de truc, mais en général, moi, à chaque fois qu'on m'a expliqué un nouveau jeu... Ok. Donc il y a ce moment où on commence à jouer. Et c'est là qui est intéressant parce que finalement, en général, on joue avec quelqu'un qui a déjà joué à ce jeu-là. C'est quand même plus facile. Ça simplifie les choses. Ça arrive que non, mais... Et donc du coup, celui qui connaît, il nous guide. Il nous aide. Ah oui, mais alors de toute façon, là, il y a cette règle, etc. Et puis parfois, dans le jeu, on se trouve à une situation et là, on se rappelle la règle qui voulait rien dire pour nous au début. Hein ? Quand vous tombez sur cette carte, vous devez faire ci, ça... Et puis là, vous tombez sur ce cas-là et vous dites « Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il y avait cette règle. » Ou alors on se plante de trucs, il ne fallait pas faire ça. Et c'est les autres qui nous disent « Ah, attention, là, tu t'es planté, il fallait faire ça. » Ou là, tu pouvais toucher de l'argent en plus parce que tu es tombé sur cette case. Et puis là, bah, on joue. Et puis finalement, tout s'éclaire, on comprend les règles. On prend le petit carnet de temps en temps. « Ah oui, attends, il y avait ça déjà, mais d'accord. » Et puis on s'amuse bien et on a envie de recommencer. Et le jeu, il est génial. Et c'est nous qui devenons la personne qui dit « Attends, je vais t'expliquer un jeu, c'est trop cool, c'est génial. » Et puis vous l'expliquez, et vous avez la personne en face de vous qui se décompose, et vous êtes là « Mince, j'explique. » Mais voilà, c'est comme ça en général. Et je pensais à ça, et je me dis « Mais la vie avec Dieu, c'est ça aussi. » Vous avez parfois des gens en face de vous qui sont « Waouh, Dieu, la vie avec Dieu, c'est génial, tu vas voir, quand tu lis ta Bible, il y a ça et ça qui s'éclaire, et puis, alors attention, c'est vrai qu'il faut mieux éviter de faire ça, parce que sinon, ça va avoir telle conséquence dans ta vie, vous êtes là. » Ouais, peut-être. Mais c'est pareil. Il faut se lancer. On va mettre un pied dans la vie chrétienne et on va commencer à comprendre et on va commencer à s'éclater et à se dire « Ah mais ouais, en fait, c'est trop bien !» Et puis vous comprenez pourquoi Dieu avait dit « Attention, ne fais pas ci ou ne fais pas ça. » Parce que c'est dangereux. Et quand vous vous retrouvez à la situation, vous dites « Ah, mais c'est pour ça. » Et puis vous avez les autres autour de vous. Quand vous commencez à comprendre quelque chose, qui vous dit « Ah oui, tiens, il nous guide, etc. » Il nous aide. Alors celui qui nous guide le mieux, c'est le Saint-Esprit. Lui, il connaît la partie. Il sait comment faire. Il connaît tout. Et voilà, j'espère que ça parle à certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça m'avait... ça me parle un petit peu. Et donc, il y a l'importance de lire le mode d'emploi, les règles du jeu. Parce que honnêtement, je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu où on ne suit pas les règles. Là, pour le coup, ce n'est pas drôle. Ça m'est jamais déjà arrivé, je crois, mais... Donc les règles, elles sont bonnes. Encore une fois, si on prend dans la vie chrétienne, il y a la lettre « tu » mais l'esprit vivifie. Les deux sont importants, il faut connaître sa parole et il faut avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Donc il faut lire le mode d'emploi, il faut se lancer par la foi. On ne sait pas par avance comment ça va se finir cette partie, on ne sait même pas comment elle va se dérouler. Mais on progresse au fur et à mesure et on y prend goût. Et on a envie de le partager aux autres du coup. Et c'est encore mieux qu'un jeu de société parce que ça, c'est la vie. Et ça a des conséquences sur les gens autour de nous, sur notre propre vie. Je fais encore une petite parenthèse, allez, la dernière. Quand je dis qu'il faut lire le mode d'emploi, donc la Bible, pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on lit la Bible ? Parce que c'est notre standard, c'est notre référence. Et je pensais aussi à cette image. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Louis de Funès quand il essaye de prendre une mesure. En général, il fait ça. Et à la fin, c'est plus ça. Pour lui, il pense que ça va passer, mais voilà, parce qu'il a fait avec sa propre estimation. Et qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voulez mesurer quelque chose, vous prenez un mètre. Le mètre, c'est l'unité standard qui a été définie. Si vous prenez un mètre là, vous allez 10 000 km, bon, sauf si vous utilisez une autre unité, mais c'est un mètre. C'est pareil pour tout le monde. C'est la norme. Et avec ça, vous pouvez vous y retrouver. Vous pouvez acheter vos meubles, vous pouvez faire un mur. Enfin, parce que c'est quelque chose qui a été défini et tout le monde est d'accord. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir une référence. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous a donné la Bible, c'est comme ce mètre, c'est comme un étalon. Ça nous permet de savoir bien mesurer les choses. Et on a besoin de cette référence, sinon chacun fait à sa mesure. Donc il y en a, ils vont dire un mètre c'est ça, d'autres c'est ça, d'autres c'est ça. Et du coup, elle est où ma référence? Comment on s'y retrouve? Comment on fait? C'est impossible. Et du coup, chacun fait son petit, ce qui arrive aujourd'hui, hein, chacun fait son petit melting pot, on prend un peu du bouddhisme, un peu l'athéisme, enfin on fait un mélange et puis voilà, c'est ça, la vérité. Ah non, la vérité, c'est ça. Mais non, la vérité, c'est ça. Bah, la vérité, pour nous, chrétiens, c'est ça. Et on a besoin de la connaître, on a besoin de la lire. Et du coup, le jeu de la vie, si je puis dire, il est beaucoup plus fun quand on connaît les règles, parce que ça marche. Voilà, parfois, si je reviens sur les jeux de société, si on suit les règles, le jeu, il est chouette. Et on ne se plante pas. Donc voilà, c'était encore une petite parenthèse sur ça. On en a besoin. Donc comme vous le voyez, tout ce que j'ai pu dire, rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses que vous savez, c'est des choses que vous avez déjà lues par vous-même, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Je n'ai pas apporté un nouveau message en soi. Mais Dieu, lui, c'est le créateur et l'inventeur. Il peut faire quelque chose de nouveau dans vos cœurs. Et je prie pour chacun de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à choisir et à prendre le chemin quotidien. À choisir de prendre le chemin quotidien. Qui va nous faire connaître, qui va nous le faire connaître. Et qu'on va grandir dans cette crainte de l'Éternel dans nos vies. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce guide. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur parce qu'on peut choisir de rentrer dans cette crainte de l'Éternel et tu nous l'enseignes. Et Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous ici, que nous puissions rentrer toujours plus, Seigneur. On est tous à des stades de différents peut-être, parce qu'on a des vies différentes, mais nous avons tous ce souhait de grandir en toi. Et que chacun ici puisse avoir ce feu pour désirer te connaître plus et rentrer dans cette crainte de l'Éternel, cette crainte qui remet les choses à leur juste place. Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu fais une œuvre en nous, que tu as commencé et que tu finiras. Seigneur, que ces paroles qui ont été dites ce matin, je les remets vraiment entre tes mains et que ce qui doit être oublié soit oublié, mais Seigneur, ce qui est là pour... Chacun sera peut-être différent, mais que ça reste dans le cœur et que ça travaille le cœur, afin que cela produise du changement, une transformation du cœur, et que cela résulte en une vie plus épanouie, Seigneur, en toi. Et sinon, on l'a chanté ce matin, il y a parfois des choses difficiles sur notre chemin, même quand on sent, quand on ne te sent pas, quand on ne te voit pas, tu es là, tu accomplis tes promesses. Tu es un Dieu fidèle, tu n'es pas un homme pour mentir. Et Seigneur, merci parce que tu es Dieu dans tout ce que cela implique, Seigneur. Ça dépasse notre intelligence. Seigneur, aide-nous à rappeler ça. Aide-nous à nous rappeler, à nous remettre devant ton trône, Seigneur. Et merci parce que même dans cette grandeur que tu es, dans cette majesté, tu, Seigneur, tu nous vois individuellement aussi. Tu vois nos cœurs, tu vois nos difficultés, tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous laisses pas seuls. Merci aussi, Seigneur, pour la communauté qu'est l'Église. Parce que, Seigneur, nous nous aidons les uns les autres, Seigneur. Nous faillons sûrement de temps en temps les uns vers les autres, Seigneur. Mais nous sommes quand même là, ensemble, pour le même but, te rendre un culte. Et cultiver ensemble cette relation avec toi. Alors, Seigneur, vraiment, sois loué, sois béni, Seigneur, dans chaque aspect de nos vies. Et que vraiment ce dimanche aussi, pour chacun, soit... une étape de plus sur ce chemin avec toi. Merci encore pour tes bienfaits, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.